Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, aide à mourir, plus belle, la fin de vie et Paris-Berlin, scène de la vie conjugale. Nos débatteurs ce dimanche, Corinne Lepage, bonjour.
Bonjour Hervé Gardette, bonjour.
Avocate, ancienne ministre de l'Environnement et eurodéputée. Nos batailles pour l'environnement, votre dernier ouvrage chez Actes Sud. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au Monde. Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. C'est votre dernier ouvrage paru chez Stock. Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Directeur des éditions du Cerf, la crucifixion de l'Ukraine. C'est votre dernier ouvrage chez Albin Michel, mais il y en a un qui arrive très bientôt. On aura l'occasion d'en parler. Et puis Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro d'Esprit, Justice et Réparation.
Justice ou Réparation.
Alors dans la deuxième partie de l'émission, nous reviendrons sur la future loi consacrée à la fin de vie. Emmanuel Macron a présenté les grandes lignes il y a tout juste une semaine. Principale innovation, l'instauration d'une aide à mourir. Alors est-ce un progrès ou une régression ? Nous en débattrons, mais tout de suite, notre premier sujet.
La France, l'Allemagne et la Pologne. Le triangle de Weimar, au cœur de l'Europe, est un symbole fort de notre unité. Il est plus vrai que jamais. L'union fait la force. Ce sont notamment nos trois États, l'Allemagne, la Pologne et la France, qui ont une responsabilité particulière en l'occurrence.
Tout va pour le mieux entre la France et l'Allemagne. Et la Pologne. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre Paris et Berlin et Varsovie. C'est ce qu'Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont tambouriné vendredi dans la capitale allemande, en compagnie donc du Premier ministre polonais. Sur l'Ukraine, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf qu'à peine installé dans l'avion du retour, le président français a réitéré ses propos sur l'hypothèse d'un envoi de troupes au sol en Ukraine, hypothèse qui avait fait bondir le chancelier allemand et qui ne va sans doute pas manquer d'écorner encore un peu plus le couple censé donner le tempo à l'Union européenne. Bref, entre la France et l'Allemagne, c'est un petit peu ichlibedisch, moi non plus. Et il faut dire que le couple n'est pas des mieux assortis. D'un côté, Emmanuel Macron, véritable zébulon, moulin à parole, jamais autant à l'aise que dans la lumière. De l'autre, Olaf Scholz, un taiseux, moins il en dit, mieux il se porte. La rigueur allemande dans toute son austérité. Alors évidemment, résumer les problèmes du couple à une opposition de style relève de la caricature. C'est sur le fond que les divergences prospèrent, sur l'Ukraine donc, mais pas seulement. Ainsi, en octobre 2022, le Conseil des ministres franco-allemands, vitrine de l'amitié entre les deux pays, avait été reporté pour mieux masquer les divergences sur les questions de défense déjà, mais aussi sur les politiques énergétiques, le choix français du nucléaire, ou économique, le plan de soutien allemand à son industrie. Alors, est-ce à dire que rien ne va plus dans le couple franco-allemand, abusivement présenté sans doute comme le moteur sans lequel l'Europe ne peut fonctionner? Il y avait comme un air de thérapie de couple vendredi à Berlin pour la visite du Français chez son partenaire allemand, avec le Premier ministre polonais, Donald Tusk, en guise de médiateur. S'agit-il d'un léger mieux avant la prochaine crise ? Sylvie Kaufmann, je ne sais pas si vous avez un compte Facebook, mais sur Facebook, il y a un statut qu'on peut remplir, notamment sur sa situation amoureuse, et on peut notamment choisir « c'est compliqué ». Est-ce que vous diriez qu'entre l'Allemagne et la France aujourd'hui, pour leur situation amoureuse, c'est compliqué ?
Oui, bien sûr, c'est compliqué. Mais bon, c'est compliqué, et il y a des solutions aussi. Je pense que cette performance de vendredi, ce fameux triangle de Weimar, hein, qui est donc constitué par les trois pôles européens, la France, l'Allemagne et la Pologne. Donc cette manifestation d'unité, à mon avis, était indispensable. Elle est bienvenue. C'est bien qu'elle se soit produite. Je ne sais pas si elle est suffisante pour impressionner Vladimir Poutine, mais en tout cas, pour les Européens, je pense qu'il fallait absolument se réunir et donner cette image de d'harmonie, disons. Alors, là, c'est très intéressant qu'on ait fait appel, effectivement, aux partenaires polonais. Et dans le contexte actuel, c'est important. Je pense que c'était vraiment une très, très bonne chose que Donald Tusk soit là.
Il a joué le rôle de médiateur ?
Non, je ne suis même pas sûre. Je pense que c'est simplement... il fallait montrer que ces trois pôles de l'Europe étaient ensemble... est uni sur l'objectif que tout le monde partage en Europe, sauf peut-être Viktor Orban, mais bon, ça c'est encore une autre question, l'objectif de la guerre en Ukraine, qui est que la Russie échoue, empêcher la Russie de gagner et même d'une certaine manière organiser sa défaite. Donc la relation franco-allemande, elle est compliquée, bien sûr, mais elle est forte, y compris dans sa nécessité de surmonter les désaccords. Et là, je trouve que c'est très intéressant. Évidemment, il y a toujours eu des désaccords, bien sûr, mais cette relation, si vous comparez, par exemple, avec la relation franco-britannique, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se permet jamais de laisser complètement déraper la relation franco-allemande. Entre Britanniques et Français, il peut y avoir des désaccords qui durent longtemps. Ça a été le cas, par exemple, après le traité de Hawke là de défense avec l'Australie qui a échappé à la France. Ça a été un désaccord très profond qui a duré des mois, un froid qui a duré des mois avec des relations diplomatiques qui étaient pratiquement gelées, en tout cas à haut niveau. Entre Français et Allemands, on peut pas se permettre ça. On peut montrer les désaccords, mais il faut trouver aussi les moyens de les surmonter. Donc, et vous dites, cette relation est quelquefois abusivement présentée comme un moteur. Je crois pas que ça soit abusif. C'est-à-dire que les partenaires européens de la France et de l'Allemagne sont en général les premiers à dire maintenant, quand il y a des désaccords trop évidents, trop poussés, à dire aux Français et aux Allemands maintenant. Arrêtez, mettez-vous d'accord, parce qu'on a besoin que vous soyez d'accord sur les objectifs principaux, sinon l'Europe, l'Union européenne, ne peut pas avancer. Mais ce qui s'est passé là, c'est que ce désaccord, bon, comme vous l'avez dit, il peut porter sur des questions économiques, sur des questions énergétiques, sur des questions d'appareils de défense aussi, surtout industriels. Mais là, la guerre en Ukraine, là, il s'agit d'une guerre. Et là, l'enjeu est beaucoup plus important, parce que la guerre, elle est aux portes de l'Europe, et donc il faut absolument que ces deux partenaires majeurs au sein de l'Union européenne puissent accorder leur violon. Et cette guerre en Ukraine a mis en évidence, évidemment, des choses qu'on connaît, des différences de culture stratégique, des différences de culture historique, évidemment, de la France et de l'Allemagne, mais qui n'était pas si importante au moment où la guerre n'était que de basse intensité depuis 2014 en Ukraine. Là, elle est de haute intensité. L'Europe est de plus en plus menacée. La Russie est de plus en plus agressive. Et donc, il faut cette fois-ci surmonter ces différends.
Bon, il y a en tout cas cet affichage de volonté de surmonter les différends, hein, même si, comme je le disais, Emmanuel Macron, dans l'avion du retour, a quand même redit qu'il y avait cette hypothèse d'envoyer des troupes au sol, qui avait quand même créé des tensions avec son partenaire allemand Olaf Scholz. Alors, on a l'impression, Jean-François Colosimo, que vu de France, l'Allemagne se fait un petit peu tirer les oreilles, c'est-à-dire être un peu plus active dans l'aide à l'Ukraine. Mais est-ce que ça n'est pas quand même faire un mauvais procès aux Allemands qui ont quand même réalisé une forme de révolution copernicienne après l'attaque de la Russie en Ukraine, en disant, bah voilà, on va livrer des armes lourdes, on va énormément subventionner notre armée pour qu'elle devienne peut-être même la première armée européenne. Est-ce qu'on n'est pas un peu injuste avec les Allemands aujourd'hui depuis la France ?
Ah, moi, je crois pas. Je crois que l'Allemagne n'est pas notre amie aujourd'hui du tout, qu'elle ne partage pas du tout notre vision de l'Europe et du monde. En tout cas, pour ce qui est du chancelier Scholz, c'est un peu plus compliqué parce que le personnel politique allemand est plus compliqué que la position de Scholz lui-même. Il y a par exemple un écologiste qui est une sorte de vice-chancelier, Habeck, qui lui a une culture anti-totalitaire, c'est un vert, et qui est beaucoup plus, je dirais, conscient de l'enjeu que représente Poutine pour l'avenir de l'Europe. Moi, dans cette affaire-là, je trouve que depuis le départ, en fait, cette histoire de couple franco-allemand, pour dire la vérité, j'y ai jamais trop cru. Parce qu'il faut regarder l'histoire, et l'histoire, c'est que, vous voyez, les invariants, ces grandes invariants, je sais que ça va faire rire, mais bon, l'héritage de Charlemagne, c'est d'un côté un empire, de l'autre une nation. Le Saint-Empire romain germanique et la nation française. Et je pense que depuis la construction européenne, on a bien fait, évidemment, de vider 14-18, 39-45, avec des Allemands qui, d'ailleurs, étaient très très propices, je dirais, à véritablement faire le compte de leur engagement nazi. Et tout ça a été important Mitterrand, mais sur tout le reste, enfin, d'année en année, sur, je dirais, la place de l'URSS, la réunification, sur la Yougoslavie, sur la Méditerranée surtout, sur l'intelligence économique, sur l'affaire de la Grèce, etc., 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 on a vu que les visions du monde étaient quand même pas du tout les mêmes, et je crois que ça éclate aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation, Sylvie Kaufmann a raison de le dire, une situation d'urgence. D'urgence maximale pour savoir qui nous sommes.
Et en même temps, Jean-François Colisimo, les images qu'on a à l'esprit, c'est De Gaulle et Adenauer, c'est Helmut Kohl et François Mitterrand. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de solide dans l'histoire récente.
L'appurement du passé, trois guerres, le nazisme, 14-18, Verdun, ce sont des images. Mais dans la réalité, je crois qu'il y a véritablement deux cultures qui sont... assez différentes. Et d'ailleurs, un des grands projets de l'Europe unie autour du couple franco-allemand, c'était une culture commune franco-allemande. Vous savez qu'elle est au plus bas. Les jeunes Français n'apprennent plus l'allemand. Ça a peut-être marché une époque. Le fameux baccalauréat franco-allemand, je crois qu'il y a trois lycées qui s'en occupent. Donc je pense qu'on a voulu vraiment surmonter une barrière culturelle qui existe, qu'il faudrait pas chercher à surmonter... je dirais par une espèce de conte de fées, cette idée de couple, vous voyez, un couple, c'est la communauté des biens, c'est l'harmonie des pensées, malgré tout, enfin en principe du moins, jusqu'à ce que ça aille mal, la preuve, je veux dire. Aujourd'hui, en fait, la vérité, c'est que l'Allemagne retombe sur son pacifisme, qu'elle a acquis depuis 1945, elle considère que les États-Unis sont responsables de sa sécurité ultime. Nous voyons bien que les États-Unis sont en plein décrochage. Quand l'Allemagne réarme, elle réarme d'une telle façon qu'elle nuit à l'idée de défense européenne et à la construction d'une défense européenne. C'est là où on...
C'est-à-dire en quoi ?
Bah, c'est que, manifestement, l'Allemagne réarmera plutôt américain que véritablement en favorisant les défenses européennes. Alors évidemment, il y a une disproportion. Nous sommes une puissance nucléaire, elle ne l'est pas. Dernier point. Là où on est très gêné, c'est à cause du départ du Royaume-Uni. Parce qu'en fait, l'histoire de France, c'est assez simple. Hein. C'est une alliance continentale avec l'Allemagne contre l'Angleterre, une alliance atlantique avec l'Angleterre contre l'Allemagne, et puis quand ni l'un ni l'autre ne marchait, une alliance de revers avec la Russie, mais là, c'était toujours la catastrophe. Bon, donc, notre vision stratégique du monde, c'est ça, et encore une fois, j'y reviens. Je veux dire, il y a eu un grand projet, l'Union pour la Méditerranée. Nous avons un destin méditerranéen depuis toujours. C'est l'Allemagne qui a empêché cette vision, parce qu'elle veut rester continentale. Voilà.
Alors nous avons Sylvie Kaufmann qui nous dit oui, le couple franco-allemand existe et il fonctionne pas si...
Le couple.
Ouais. Le moteur, mais ça, ouais. Ça va non, même encore
dit,
plus loin.
Oui. Non, j'ai pas dit le moteur existe, j'ai dit le moteur doit se remettre en marche. Oui.
Mais c'est ce qui sous-entend qu'il existe.
Bon, oui.
Je voulais créer une petite opposition entre vous et Jean-François Colosimo et peut-être demander à Lorraine. Et demander à Lorraine Bujon d'arbitrer.
Assez naturellement, en fait, moi je me retrouve dans certains éléments de ces deux positions. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une relation franco-allemande qui n'a jamais été simple. Je pense en effet qu'il y a des différences de culture politique, stratégique, économique, historique. Donc il n'y a pas d'alignement a priori, mais il y a vraiment une faculté à surmonter ces différends et à se mettre d'accord dans des moments de crise ou dans des moments clés. Donc cette relation, elle est très importante. À vrai dire, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est que s'il y a des tensions entre la France et l'Allemagne, c'est bien sûr à cause de différences de style de leadership, on va dire, entre ces deux hommes. Mais je crois que c'est aussi vraiment un reflet du moment dans lequel on est, en fait, d'un état du monde qui change et qui change très vite et qui vient tester pour moi chacun des pays, la France et l'Allemagne, dans certaines de leurs positions réflexes, on va dire, et qui sont très irritantes pour leurs partenaires en Europe, pas juste le français ou l'allemand, mais au-delà. Donc si vous voulez, il y a cette tendance de la France de voir l'Europe comme la France en grand, qui est insupportable évidemment, et là, avec les rodomontanes, etc., on est en plein là-dedans. De pas toujours prendre en compte les intérêts de nos partenaires, les intérêts et les points de vue de nos partenaires, mais aussi d'avoir le verbe haut et pas toujours les moyens de ses ambitions.
Ça, c'est dans la France dont vous parlez toujours, là.
Voilà, et je pense que tous ces travers français, si vous voulez, aujourd'hui posent problème. Du côté allemand, on peut commencer, bien sûr, par cette espèce de tropisme américain le fait de s'en remettre toujours d'abord aux États-Unis et d'être très lent aujourd'hui à comprendre que la culture stratégique, le positionnement stratégique américain a changé radicalement. Et que donc si les États-Unis, si l'Europe ne peut plus compter aujourd'hui sur les États-Unis, c'est pas juste Donald Trump, c'est un pivot stratégique des États-Unis depuis 2008 et l'Allemagne se comporte comme si ça n'était pas le cas ou comme si un président démocrate allait pouvoir réparer cet état de fait. Et puis il y a la relation spéciale avec la Russie ou avec l'Est de l'Europe et ce tropisme aussi de penser l'économie d'abord. Donc dans les relations avec la Russie, dans les relations avec la Chine, vous avez parlé d'énergie, d'hydrocarbures, l'importance de l'exportation dans l'économie allemande, on sait que ça peut faire passer des considérations économiques d'abord. Et puis il y a ce petit moment de pacifisme. Donc je crois que le moment dans lequel on est vient chercher chacun des partenaires dans ses limites. Cela dit, moi je suis très frappée aussi de ce que, en termes de politique intérieure, peut-être que les deux pays sont dans des positions qui se ressemblent bien davantage que ça n'a été le cas il y a 5, 10 ou 15 ans. Et ça, ça pourrait les amener à se rapprocher. Je pense bien sûr à la montée de l'extrême droite en Allemagne et en France, mais aussi à la présence d'une gauche anticapitaliste dont maintenant l'alignement avec la Russie pose également problème. Donc il y aurait là, je crois, des raisons de travailler ensemble. Il y a une urgence à travailler ensemble. Et je terminerai pour dire, moi non plus, j'aime pas le terme de couple. Pour moi, il faut au moins élargir à la famille. Et je me demande...
Un trouble avec la Pologne, peut-être.
Alors, il y a ces triangles. Donc, je suis d'accord avec Jean-François Colosimo que le Brexit fait une vraie différence parce qu'on a perdu là un point d'équilibre avec un pays qui avait une politique de sécurité et de défense avec laquelle on pouvait beaucoup s'accorder. Et donc là, on a la Pologne qui vient permettre de reconstituer un autre triangle. Mais en fait, moi, je suis très frappée que l'Europe est peut-être en train de devenir multipolaire et que la France et l'Allemagne sont très importantes, mais que peut-être elles devraient en rabattre un peu. Donc, il y a les pays d'Europe centrale et orientale, il y a la nécessité de continuer à travailler avec le Royaume-Uni, bien sûr, et de repenser une alliance atlantique où, encore une fois, le partenaire américain n'est plus ce qu'il était.
En rabattre un peu, est-ce que c'est aussi l'avis de l'ancienne eurodéputée que vous êtes, Corinne Lepage ?
Je me retrouve beaucoup dans ce qui vient d'être dit, en réalité. Même si je trouve aussi des éléments avec Madame Kaufmann et Monsieur Colosimo. Dans ce que j'ai vécu, mais ce que j'ai vécu à la fois 95-97 et 2009-2014, donc c'est deux moments un peu différents. Il est tout à fait clair qu'il fallait qu'on soit d'accord avec l'Allemagne. Il fallait se débrouiller. Du temps de Chirac, c'était indéniable. Il y avait les conseils des ministres très réguliers. Et le mot d'ordre, c'était vous faites comme vous voulez, mais vous trouvez un accord avec l'Allemagne. Il n'était pas question qu'on soit pas d'accord avec eux.
C'est-à-dire que même si on n'était pas d'accord, il fallait qu'on soit.
Il fallait qu'on trouve. Et il y avait la même consigne du côté de l'Allemagne. Moi, à l'époque, mon alter ego, c'était Angela Merkel, qui était ministre de l'Environnement à l'époque. Et on s'entendait franchement très bien. On trouvait des solutions. Lorsque j'ai été député européen, les choses étaient un peu différentes parce qu'on n'était plus 15, on était 28. C'est pas la même chose. Hein. En 95, on était 15. Donc évidemment, 2 sur 15, c'est beaucoup. Comme vous venez de le dire, 28, il y a différents pôles. Et c'est vrai que pendant très longtemps, l'Allemagne s'est un peu organisée avec l'Europe de l'Est. Je dirais pas contre nous, mais enfin un peu quand même. Bon. Là, ce qui me paraît clair, c'est que les cartes sont rebattues, non pas de notre volonté, mais de celle des autres. Autrement dit, et je m'en réfère à ma voisine, Madame Kaufmann, et à son livre, les relations entre l'Allemagne et la Russie, qui ont été si puissantes, elles sont complètement remises en cause. C'est tout à fait clair. Voilà, ça c'est un élément très puissant. Deuxièmement, l'OTAN... L'OTAN, déjà, est aujourd'hui un peu interpellée, si je puis dire. Et surtout, la perspective possible, j'espère pas probable, d'une élection de Trump nous oblige évidemment à nous préparer et à voir les choses de manière différente. Donc le parapluie américain, de toute façon, il est fortement interpellé. Donc la question...
Ça peut-être avoir vocation justement à rapprocher l'Allemagne et la France.
Exactement. Donc... l'idée de la défense, de travailler vers une défense européenne, d'une capacité de nous organiser, m'apparaît quand même quelque chose d'extrêmement important. Et oui, quand vous disiez tout à l'heure que l'Allemagne a fait des efforts, c'est vrai qu'elle a fait un effort considérable en revoyant complètement sa position, qui était celle d'un pacifisme total, en investissant massivement dans l'armée, ce qui n'avait pas été fait depuis des années et des années, et en prenant donc une position qui n'est pas celle du président Macron, mais une autre. Et puis le dernier point qui m'interpelle, mais j'ouvre la question, je me pose la question de l'importance des considérations de politique intérieure dans l'expression des uns et des autres. Autrement dit, il y a les élections européennes qui arrivent. Vous l'avez rappelé il y a un instant, des positions quand même très pro-russes, à la fois de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Dans quelle mesure est-ce que cette situation n'influe pas sur les positions qui peuvent être prises par nos dirigeants respectifs dans une perspective de politique intérieure et non plus de politique extérieure? Je ne dis pas que c'est ce qui est fait. Je dis que c'est une question que personnellement je me pose.
Sachant que ces considérations de politique intérieure, elles interviennent aussi dans deux systèmes politiques qui sont quand même très différents, hein, Sylvie Kaufmann. C'est-à-dire, sur les questions, en tout cas, de défense en France, c'est le président qui décide. Bon, alors, il peut y avoir des débats, mais enfin, à la fin, c'est Emmanuel Macron qui a le dernier mot. En Allemagne, on est dans une coalition, il faut réagir par consensus. Donc forcément, les décisions sont beaucoup plus difficiles à prendre. Donc c'est aussi peut-être une des explications des divergences qu'il peut y avoir parfois entre Paris et Berlin.
Oui, absolument. Et puis en Allemagne, j'ajouterais à ce que vous venez de dire, que c'est aussi le Bundestag qui décide sur les questions de défense.
Donc le Parlement.
Le Parlement. Et justement, à ce propos, jeudi, donc la veille de cette réunion du Triangle de Weimar à Berlin, il y a eu un débat assez extraordinaire au Bundestag où le chancelier Scholz a et rester sur sa position qui est de ne pas vouloir livrer ces fameux missiles à très longue portée, les missiles Taurus qui peuvent frapper à 500 km de distance et qui donc permettraient une sorte de saut stratégique pour l'Ukraine contre la Russie. Et donc Scholz ne veut pas, a répété qu'il ne voulait pas livrer ces missiles. Et il a eu cette phrase qui, à mon avis, est fondamentale. En tant que chancelier, j'ai la responsabilité d'empêcher que l'Allemagne participe à cette guerre. Donc, cette question du pacifisme allemand, oui, elle est toujours là. C'est-à-dire que oui, l'Allemagne a fait beaucoup depuis le 24 février, et en particulier depuis le 27 février 2022, et ce fameux discours du chancelier Scholz disant il y a un changement d'époque, et des moyens ont été déployés. Mais ce changement, il y a eu un changement d'époque, mais il n'y a peut-être pas encore eu le changement de mentalité vraiment en Allemagne, qui reste très, très imprégné de ce pacifisme hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a quand même des grosses évolutions. C'est que Jean-François Colosimo a cité le vice-chancelier Robert Habeck. Dans ce débat au Bundestag, ce qu'on a vu, c'est que l'ensemble de la classe politique était contre Scholz, y compris ses partenaires de coalition, les Verts et les Libéraux. Donc, il avait tout le monde, la CDU, donc conservatrice, les Verts, les Libéraux, qui lui disaient si, il faut livrer ces missiles Taurus. Et lui disait non, je ne veux pas que l'Allemagne participe à cette guerre et la livraison de ces missiles aboutirait à cette posture. Mais finalement, ce qui s'est passé à la fin, c'est que la discipline de vote a marché et donc les partenaires de coalition gouvernementale se sont rangés quand même derrière le chancelier malgré leurs divergences d'opinion. Pourquoi est-ce que le chancelier aussi reste sur ses positions? C'est que l'opinion publique est derrière lui. Les sondages montrent que les Allemands, à plus de 50%, près de 60%, reste opposé à cette livraison de missiles. Ils sont majoritairement pour l'envoi d'armes à l'Ukraine, donc pour le soutien à l'Ukraine contre la Russie, ce qui est déjà un gros progrès, je pense, pour les Allemands, mais ils ne veulent pas franchir ce pas des missiles Taurus, qui, je pense, va peut-être être franchi d'une autre manière, et on le verra dans les réunions qu'il va y avoir des ministres de la Défense dans les jours à venir, qui pourrait être réglé par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire que ces missiles seraient transférés à la Grande-Bretagne, et ça serait finalement la Grande-Bretagne qui les livrerait. Voilà, mais ça, c'est encore quelque chose à voir. Et l'autre chose, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit aussi Anne-Lorraine Bujon tout à l'heure, c'est qu'il y a la composante américaine qui est très importante. C'est vrai que Scholz en particulier, les Allemands en général, mais Scholz en particulier reste très très attaché à la relation transatlantique bien sûr, mais aussi au fait que la sécurité de l'Allemagne dépend des États-Unis, que les Français, eux, ont une, traditionnellement une position plus européenne, y compris au sein de l'OTAN, hein, ils veulent construire ce pilier européen au sein de l'OTAN, et que là se profile une menace qui est celle de la possible élection de Donald Trump, et que les Allemands, là, doivent être plus lucides, et en particulier le chancelier Scholz. Mais là, on n'en est pas encore tout à fait là.
Dans cette perspective, Jean-François Colosimo, ce sont les Allemands qui doivent faire leur petite révolution interne, davantage que les Français, qui sont habitués justement à cette idée d'une souveraineté.
Il n'y a pas photo, comme diraient les jeunes, n'est-ce pas? Pour répondre quand même à Corinne Lepage, c'est évident que il y a l'échéance des élections européennes. C'est évident que lorsqu'on voit en plus l'attitude de LFI et du RN, on voit mal comment le président de la République, très engagé sur cette question, ne ferait pas, n'en profiterait pas. Enfin, c'est quand même pas pour ça qu'il a dit qu'on allait envoyer des troupes en Ukraine. C'est-à-dire, mais je dis ça pour les auditeurs. C'est-à-dire parce que certains pensent qu'effectivement, c'est un coup. N'est-ce pas? Ou que même d'ailleurs, ses premières déclarations ont été un coup pour attraper le salon de l'agriculture, ou je ne sais trop quoi. Enfin là, je crois que c'est le monde à l'envers et il faut arrêter avec de telles bêtises. Moi, ce que je vois, c'est quoi? C'est que, en fait, on l'a dit, cette émergence, oui, il y a une similarité avec une extrême droite et une extrême gauche, qui au fond, d'ailleurs, les nôtres d'extrême droite et d'extrême gauche qui clament sans arrêt des gestes de souveraineté, mais pour une fois qu'il y en a un, je vois d'ailleurs qu'ils adhèrent pas à ce geste de souveraineté et sont plutôt dans une perspective munichoise. Mais les sociétés se ressemblent de plus en plus. Mais la miasse quand même, et la situation de l'économie de l'Allemagne n'est pas si bonne. Pas comme elle a pu être par le passé. Or nous, il y a une chose qui est intangible. C'est qu'on a une constitution qui fait du président de la République élu au suffrage universel, le chef de l'État, le chef de la diplomatie, mais aussi le chef des armées, c'est-à-dire le président Macron dit chef de la défense, non, c'est chef de guerre. C'est ça la vérité de la fonction. On a la force nucléaire, nous sommes présents sur toutes les mers, en raison des territoires ultramarins, et qui plus est, nous avons une armée qui a l'expérience du feu, elle l'a eu au Sahel, elle l'a eu dans d'autres circonstances, au Proche-Orient, et dans des missions, je dirais, internationales de préservation de la paix. Face à ça, je vois un Scholz terrorisé, un Scholz pétrifié, qui représente en fait, pour moi, quasiment un dinosaure. Et encore une fois, on l'a cité plusieurs fois, Habeck, qui vient du mouvement écologiste. Alors, tu vois, les écologistes, c'est quand même pas des va-t-en-guerre, théoriquement. N'est-ce pas? Mais lui, il est très clair sur cette question. Il y a un moment où les entreprises totalitaires, si on les arrête pas, elles vous débordent. C'est aussi simple que ça, la question qui se pose aujourd'hui. Et on a une Allemagne pétrifiée par son passé, par son pacifisme, et pétrifiée aussi, il faut quand même le dire, par ses intérêts et sa vision économiste du monde.
Dernier petit point sur cette relation entre la France et l'Allemagne. Alors, c'est une hypothèse, mais on a l'impression quand même que pendant un temps, les rôles étaient assez bien répartis. C'est-à-dire qu'il y avait l'Allemagne qui était la puissance économique, et puis la France qui était la puissance stratégique, militaro-stratégique. Est-ce qu'aujourd'hui, les divergences, elles s'expliquent pas aussi parce que, finalement, cette répartition des rôles, elle est moins claire qu'auparavant. L'Allemagne qui se met à réarmer, et la France qui peut aussi contester certains choix économiques de l'Allemagne, Anne-Lorraine Bujon.
Oui, et je rajouterais qu'il faut regarder ce qui se passe au Danemark, aux Pays-Bas, en Pologne, en République tchèque. En fait, chacun de ces États membres de l'Union européenne est en train de bouger dans ses positions relatives. Mais pour revenir sur deux petites choses, cette idée que derrière les gouvernements et les chefs d'État, il y a des sociétés, et je crois que c'est très important, parce que sur le brouillage là entre politique intérieure et politique étrangère, à qui parle-t-on quand on parle comme ça, à qui parle Emmanuel Macron quand il parle de ne rien exclure, à qui parle Olaf Scholz quand il dit non, l'Allemagne n'entrera pas en guerre. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, ils font de la politique européenne et que dans une certaine mesure, je crois qu'il y a des opinions publiques en Europe, dans différents pays, qui se retrouvent davantage aujourd'hui dans les propos du président Macron, de même que vous allez avoir en Italie une partie de l'opinion publique également assez pacifiste qui va bien mieux se retrouver chez Olaf Scholz. Et donc, je crois qu'on progresse vers ce qui ressemblerait à un espace public européen, et moi je m'en réjouis.
Corinne Lepage ?
Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'il y a une évolution dans les états d'esprit des différents pays européens. Et plus ils sont proches de la Russie, je dois dire, et plus ils sont préoccupés. Il y a aussi des considérations géographiques. Quand vous êtes voisin immédiat ou quasi immédiat de la Russie, vous ne voyez pas la même chose que quand vous êtes au Portugal. C'est pas pareil. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Et dernier point, sur ce que disait Jean-François Colosimo, il y a quand même derrière un problème de moyens de notre armée. On a une excellente armée, ça c'est indéniable, mais on a un sacré problème de moyens, et tous nos généraux le disent de manière tout à fait claire. Donc il faut quand même aussi qu'on ait une politique ambitieuse, mais qui tient compte des moyens dont nous disposons.
Un dernier tout petit mot de Sylvie.
Juste une toute petite chose sur le brouillage des lignes. En effet, je voulais revenir sur cette question de les lignes à l'intérieur de l'Europe qui bougent. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que l'Europe centrale et orientale et du Nord, qui était un peu l'arrière-cour de l'Allemagne, en ce moment est plutôt en soutien d'Emmanuel Macron. Et l'initiative, les deux importantes initiatives en matière de défense sur l'Ukraine ces derniers temps, elles ont été prises par l'Estonie et par la République tchèque, ni par l'Allemagne ni par la France.